Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. C'est tous les jours, de midi à 15h. Autour de moi, il y a toujours Alfred Orange, journaliste RMC. Robert Sebag, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière. Benjamin Hamard, syndicaliste et enseignant. Et Frédéric Hermel, journaliste RMC. Dans un instant, les carburants. On va parler de carburants. Quand vous faites votre plein avec votre voiture, que vous soyez essence ou gasoil, doit-on plafonner les prix à 1,50€? C'est ce que réclame l'association 40 millions d'automobilistes. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous nous appelez au 32-16 à 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, faut-il relancer les colonies de vacances? C'est ce qu'envisage le gouvernement puisqu'il lance le pass colo. Et puis à 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui. On parlera de quoi notamment, Alfred?
On parlera du gouvernement qui cherche 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Et puis on parlera aussi des congés pour la transition de genre. Une entreprise vient de s'y mettre. On vous expliquera tout.
RMC Estelle Midi.
La pétition du jour. Cette pétition, elle est lancée par l'association 40 millions d'automobilistes pour plafonner les prix des carburants à 1,50€. Alfred, aujourd'hui, on est très loin des 1,50€.
Oui, une demande qui arrive à l'heure où les prix flirtent avec les 2€ du litre en ce moment dans de nombreuses stations françaises. Il faut remonter à septembre 2023 pour retrouver des prix du carburant aussi élevés. La faute d'abord à un baril de pétrole plus cher, au-delà des 80$ le baril, c'est 10$ de plus qu'il y a 2 mois. Et en plus, les distributeurs ont arrêté depuis le mois de janvier leurs opérations à prix coûtant. Le contexte international ne s'est lui pas amélioré. Pour l'association 40 millions d'automobilistes qui lance cette pétition, il y a danger parce que ça met en péril, d'après eux, l'accès à la mobilité de nombre de nos concitoyens qui ne peuvent pas se passer de la voiture.
Carburant, doit-on plafonner les prix à 1,50€? Dans un instant, le président de l'association 40 millions d'automobilistes à l'origine de cette pétition, Pierre Chasseret, sera avec nous. Et vous, vous nous appelez au 32-16. Frédéric Hermel, est-ce que on doit plafonner les prix à 1,50€?
Pourquoi pas? Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. C'est une. Mais j'aime quand l'État intervient dans l'économie. Moi,
je comprends plus. Alors, tu veux pas que l'État paye pour les émeutes? Tu veux pas que l'État paye pour les profs manquants? Et là, tu veux que l'État paye pour les carburants?
Excuse-moi. Enfin, les automobilistes ont rien cassé. Hein. Ouais. Ils sont simplement victimes d'un marché dingue. Excuse-moi. Enfin. Moi, si je comprends pas ta question là.
Bah, parce que tu disais que l'État, tu veux pas non plus qu'il paye pour les profs.
Bah, non. Mais sur quoi? Non. Oh là là. Non. Moi, j'aime un État fort. J'aime un État fort. J'aime pas qu'on vole l'État non plus. Simplement, voilà. Je peux comprendre. J'aime un État fort. Donc, moi, je trouve que l'idée de, parce qu'en fait, toutes les aides, tous les chèques, etc., ça coûtait très très cher. Ça n'a pas servi à grand chose finalement. Le fait que l'État décide de bloquer certains de ses revenus, parce que l'unique manière de faire baisser les prix est de garantir un prix maximum d'1,50€, ça veut dire que il y aurait, c'est-à-dire que les taxes que prenne l'État varieraient suivant le prix du pétrole pour que jamais ça augmente d'1,50€, quoi. Donc, pourquoi pas? Dans ce cas-là, on déclare l'essence, le gasoil, comme un bien d'intérêt général. Pourquoi pas? Moi, je trouve que l'idée n'est pas idiote, en sachant que les gens qui utilisent leur voiture sont des gens qui travaillent, sont des gens qui produisent et qui ramènent des rentrées fiscales à l'État. Mais il faut savoir que ça coûtera cher.
Robert Sebag, est-ce qu'on plafonne les prix à 1,50€?
Vous savez, moi, je n'oublie pas que la crise des Gilets jaunes, ça a été deux choses. Ça a été le prix du carburant, alors qu'à l'époque, il était déjà 1,50€, et ça a été effectivement le 80 km/h. Pour faire baisser, comme l'a dit Fred, c'est 60% de taxes de l'État. Donc si on veut essayer de bloquer, entre guillemets, le prix à 1,50€, ça veut dire baisser les taxes. Si on baisse les taxes, alors on parle aujourd'hui de déficit, etc., d'économie. Si on baisse les taxes, les gens vont davantage utiliser leur voiture aussi. Alors là, problème écologique. Donc s'ils utilisent plus, je veux dire, on aura baissé d'un côté, mais il y aura plus de rentrées de l'autre.
Mais donc tu parlais du déficit à l'époque où on a évoqué cette solution de baisser les taxes de l'État. Bruno Le Maire n'a cessé de répéter on n'a pas les moyens.
Il y a un cercle vicieux. On est dans quelque chose de quasiment insoluble parce que c'est le marché, c'est le coût du baril et on sait qu'il est très très fluctuant en fonction de la géopolitique Et en ce moment, la géopolitique dans les pays pétroliers, elle est pas florissante. Ce qui se passe en mer Rouge avec les Houthis et les navires commerciaux. Donc, ça augmente le prix parce qu'ils doivent faire le tour par le Cap de Bonne-Espérance. Parce qu'aux États-Unis, il y a une consommation de plus en plus importante avant l'été. Il y a les voitures. Alors après, il y a le côté électrique, si vous voulez. Donc, ça fera baisser peut-être. Ils baisseront peut-être le prix du carburant, mais voilà où on en est. Mais ça serait souhaitable parce que le problème de mobilité aujourd'hui dans certaines régions, ils n'ont pas le choix et ça grève de plus en plus le budget souvent des personnes les plus démunies.
Benjamin Amar, est-ce qu'on plafonne les prix à 1,50 €?
Bien évidemment. En fait, le problème qu'on a, c'est que quand le prix du baril augmente, on augmente le prix du carburant. Et quand le prix du baril baisse, le prix au carburant baisse beaucoup moins. Donc, on a un vrai souci. Et on peut pas faire comme dans le film, vous savez, de Jacques Tati, où il y a un rond-point et il y a des sens interdits partout. Mmh. Il va falloir trouver des solutions. Alors, on est un certain nombre à dire, pas que moi, que justement, sur cette problématique, il y avait l'exigence d'augmentation des salaires qui permettait de faire face à l'inflation, notamment des prix du carburant. Mais si ça, c'est si compliqué à mettre en place, bien évidemment que le levier sur les prix, il ne faut pas hésiter à en jouer, parce que jusqu'à présent, les chèques carburant, etc., c'est en fait l'État qui utilise l'argent public pour pallier à cette difficulté-là.
Il y a eu des aides ciblées maintenant.
Et à quel moment justement on met les grands groupes de distribution du carburant, de production et distribution du carburant comme Total et autres qui ont fait des profits.
Et autres, Total, c'est le seul français. Oui, Total a joué le jeu.
Non mais attends. Et je te rappelle quand même qu'on a eu une taxe sur les super profits qui a nourri l'actualité et qui ne s'est pas faite. Donc là maintenant, il me semble que plafonner les prix, ce qui va forcément impliquer Total, ça peut tout à fait s'intéresser parce que
non, si c'est les taxes qui baissent, Total.
Non, ça n'implique pas Total.
Alors
Benjamin, c'est les taxes qui baissent.
Écoutez, laissez-moi finir.
Vas-y.
Il y a deux leviers. Il y a les taxes, mais il y a aussi l'entreprise Total. Et derrière, plafonner, que ce soit effectivement la baisse des DAX ou que ce soit de solliciter Total directement sur ses
profits,
moi ça me va bien. J'estime, permets-moi de te le dire, t'es peut-être pas d'accord avec moi, mais maintiens.
C'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, tu me dis, il faut mettre
des profits exorbitants.
C'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, tu me dis, il faut mettre Total à contribution, mais Total, il a déjà été mis à contribution.
Ça fait deux fois que tu me dis ça, donc je vais aller au bout du truc.
Ah oui.
Je te redis que Total a fait des profits exorbitants, des super profits, qu'on n'a pas taxé les super dividendes, et que donc j'estime qu'on est loin du compte sur sa contribution. Voilà.
Avec le risque Total part ailleurs.
Oui. Toutes les entreprises. Écoutez, je suis étonné depuis le temps que soi-disant on les attaque et qu'on empiète sur leurs intérêts. C'est marrant, ils sont toujours là. Donc ça veut dire que visiblement, la situation est bien confortable.
Allez, carburant, doit-on plafonner les prix à 1,50 €? Vous nous appelez au 32-16, comme le fait Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Bonjour. Sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez d'où, Pierre?
Je vous appelle du Loir-et-Cher.
Dans quel coin du Loir-et-Cher?
À la limite, en fait, Loir-et-Cher et Loiret, pas loin d'Orléans.
D'accord, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Pierre?
Je suis militaire.
D'accord, beaucoup de routes ou pas?
Je fais 60 km aller-retour pour aller au travail.
Par jour,
ouais.
C'est pas mal déjà. Ouais.
Et puis mon épouse, pareil.
D'accord. Est-ce qu'on plafonne le carburant à 1,50 €?
Alors, j'ai pas entendu tous vos intervenants, mais là, le dernier, je l'ai entendu.
C'est Benjamin.
Alors déjà, je voudrais remettre quelque chose. J'ai un cœur de gauche au fond de moi, mais les super profits, ça marchera pas. Les taxes sur les super profits, ça marchera pas. Ou alors, il faut accepter une chose, c'est que quand il y aura des pertes, il faudra cracher au bassinet pour compenser les pertes. On ne peut pas prendre que la taxe sur les profits et ne pas redistribuer au moment où il y a de la perte. Donc ça, j'y crois absolument pas. Ensuite, plafonner les prix, c'est pareil, j'y crois pas. Franchement, pourtant je roule, mais c'est le même principe. Regardez Total, ils nous ont dit, quand les carburants ont augmenté à mort, ils ont dit on plafonne à 2 € le litre. Enfin, 1,99 €. Mmh. Aujourd'hui, dans beaucoup de stations, le prix du litre est redescendu. Les stations Total, vous regarderez, hein. Ça n'a pas redescendu. Bah oui, parce que forcément, quand c'était au-dessus de 2 €, ils ne pouvaient pas prendre leur commission. Quand ça va redescendre, il va bien falloir qu'ils se rattrapent quelque part. Donc malheureusement, ces entreprises, elles sont pas là pour faire de l'humanitaire, quoi. Moi, j'y crois pas au plafonnement. Donc, après, la solution, nous, ce qu'on a fait, ce qui marche plutôt pas bien, c'est mon épouse a une hybride non rechargeable que j'ai passée il y a 3 ans sur laquelle j'ai fait poser un boîtier bioéthanol. Ouais. On n'est plus dépendant du cours du pétrole sur cette voiture là, quoi.
Même si le bioéthanol son prix a doublé ces derniers temps.
Oui, on est passé. Quand j'ai fait poser son boîtier, il devait être à 0,80 du litre. Là, on est à 0,90. Il est monté par un moment à 1,02. On redescend. Et là, vous voyez, je viens de changer. Moi, j'avais un vieux diesel de 2005 sur lequel je faisais des pleins à 120 euros. Là, je suis passé à l'hybride rechargeable et je roule le maximum en électrique et je vais faire poser un boîtier aussi dessus pour rester sur du bioéthanol. Parce qu'en France, on a la production de betteraves qui marche pour ça et au moins je suis pas dépendant des cours du pétrole, quoi.
Merci voilà. Pierre d'avoir été avec nous. Pierre qui nous appelle au 32-16 de pas loin d'Orléans, il est dans le Loir-et-Cher. Il y a de nombreux messages également sur Direct Studio, Alfred.
Oui, beaucoup de témoignages, celui d'Emmanuel notamment sur la nécessité d'une telle mesure. Avec ma femme, nous coupons le carburant avec du E85 sans boîtier de conversion. Nous ne pouvons plus assumer les 1,92€ par litre. Nous ne faisons plus de loisirs, plus de sorties. On ne se déplace que pour le travail.
Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre Chasseret.
Salut Rémi, salut.
Bonjour, salut Pierre. Pierre Chasseret, président de l'association 40 millions d'automobilistes. C'est l'association qui est à l'origine de cette pétition qui réclame un plafonnement des prix des carburants à 1,50€. Pierre, qu'est-ce que vous réclamez exactement ?
Alors déjà, dire que ce qu'a fait Pierre, c'est-à-dire poser un boîtier éthanol, c'est la solution. Il a raison. Contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai que l'éthanol a eu mauvaise presse ces derniers temps parce qu'il y a eu un moment où ça a un peu augmenté d'une vingtaine de centimes. Donc forcément, ça fait passer le prix au-dessus d'un euro. Mais un euro, quand vous êtes à 1,10€ par rapport à un prix des carburants qui est à 1,90€ ou 2€, vous êtes quand même complètement gagnant. Le problème de Pierre, c'est qu'il a pas tout dit. L'éthanol, c'est la solution pour celui qui roule à l'essence. Parce que vous ne pouvez pas convertir à l'éthanol une voiture diesel. Et donc, comme vous avez un parc roulant, il faut savoir que 80% de la consommation de carburant en France, c'est du diesel. Il va bien falloir faire quelque chose pour ces gens qui sont prisonniers. Et c'est même plus du braquage à la station, Rémi, ce qui se passe. Moi, je dis que c'est une rançon qui est demandée aux automobilistes pour le droit de rouler.
Alors, tu parles de l'État, hein, tu parles des taxes de l'État.
Mais, bien sûr, 60% de taxes, 60% actuellement. C'est du délire. Rien que le fait de le dire, ça veut dire que quand on emmène ses gamins à l'école, on a 60% de taxes sur la mobilité. La mobilité est devenue le premier poste budgétaire des Français devant l'alimentaire et le logement. Mais franchement, est-ce qu'on n'est pas tombé un peu sur la tête ? De plus, économiquement, aucun sens, parce que plus vous tapez sur les prix des carburants et sur la fiscalité, c'est de l'argent qui ne va pas travailler. Cet argent, il va aller directement dans les caisses de l'État. Mais il n'a pas fait travailler l'économie, il n'a pas servi la consommation. Et vous avez des Français aujourd'hui qui arbitrent leurs déplacements. Et là, ils se disent, aller au boulot, je n'ai pas le choix. Donc, ok, bon, là, je mets le carburant. Par contre, aller voir mamie ce week-end, non, parce que le carburant, c'est trop cher. Partir en week-end avec les gamins, non, parce que le week-end et le carburant, c'est trop cher. Et c'est sur ce budget loisir, donc ce qui fait la vie, ce qui fait notre plaisir, eh bien, c'est là-dessus qu'on est en train d'empiéter. Donc, on a lancé ce site, 1,50€.fr, où chacun peut signer, et on pousse le Parlement, on pousse le gouvernement à faire un geste sur la fiscalité sur les carburants qu'il faut revoir de fond en comble.
Pierre, tout à l'heure, Benjamin Amar l'évoquait. Est-ce que l'autre piste, plutôt que de taper sur les taxes de l'État, parce que c'est les recettes publiques, ça fait partie de nos recettes publiques, c'est notre argent quelque part. Est-ce que c'est pas la solution nous aussi, c'est de taper sur les profits des producteurs de pétrole, des distributeurs plutôt, comme Total par exemple.
Déjà, la première chose, il y a un truc qui me hérisse les poils, c'est d'entendre le mot super profit. Il faut savoir que la notion de super profit est une notion politique. En termes d'entreprise, ça n'existe pas, le super-profit. Il y a des profits ou des pertes. Point. Ensuite, il est incontestable que certaines entreprises font de l'argent. C'est l'ADN d'une entreprise. Si demain on monte une boîte, on va vouloir aussi faire de l'argent. Mais il faut regarder le dispatch du litre de carburant. Celui qui se goinfre à table et qui se goinfre à hauteur de 60% du gâteau sans rien faire, c'est l'État. Donc si on veut que les entreprises suivent, il faut que l'État montre l'exemple. Vous pouvez pas avoir une entreprise qui dit « Ah oui, bah moi je vais renoncer à ce que je prends, c'est-à-dire 15%, alors que l'État va dire « Bah très bien, nous on continue à se goinfrer ». Quand il y a un effort à faire porter, c'est celui qui prend le plus gros de la part du gâteau qui doit faire cet effort. Quand vous avez une famille qui crève la dalle, il n'est pas question qu'il y en ait un qui se resserre quatre fois. Et bien là, c'est ce qui se passe avec le gouvernement sur les prix des carburants. Et attention, je sais, on va me dire, 1,50€, Pierre. C'est un peu démago, là, avec 40 millions d'automobilistes. Et en fait, j'ai fait mon petit calcul très simple. Je suis remonté à l'origine de l'augmentation de la fiscalité sur les carburants. Elle s'appelle François Hollande et Emmanuel Macron. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on décide, à l'époque, derrière une notion d'alignement des fiscalités essence et diesel, d'augmenter comme des porcs l'essence et comme des malades le diesel.
Excusez-moi, Benjamin Hamar.
Moi, votre pétition, je l'ai dit, j'y suis plutôt favorable, parce que 1,50€ me semble un prix tout à fait correct. Mais, et j'entends tout à fait, comme tout un chacun, 60% de taxes sur le carburant. Il est évident qu'il y a là une exception française qui mérite largement d'être battue en brèche, mais je partage pas du tout ce que vous dites. Je suis désolé, les acteurs économiques, ils ont une responsabilité aussi. Lorsqu'ils ont fait 6 super profits, ça vous gêne, je vous proposerai profits exorbitants. C'est des profits exorbitants qui ont été faits, et je ne vois pas pourquoi on devrait exonérer Total de cet effort collectif.
Alors, on revient, vous m'avez pas écouté, donc peut-être...
Ah si, je vous ai écouté.
Non, mais vous pourrez repasser la banque, mais je vais vous le redire.
Pas de problème, je vous ai écouté.
S'il y a un effort et le là à donner...
On peut l'écouter en podcast sur rmc.fr tous les jours.
Rémi, il n'en rate pas une. Ouais. S'il y a un effort à faire, le premier de l'effort, le premier de cordée, c'est l'État qui prend 60%. Et ensuite, les autres suivront. Il est évident que moi, ce que je veux, c'est un tarif qui redescend à ce que veulent les automobilistes, c'est-à-dire 1,50. Voilà pourquoi on a appelé cette opération comme ça. On a fait un sondage. Quel est le juste prix pour vous du litre de carburant? Les Français me disent 1,50€.
Voilà, donc votre objectif, c'est 1,50€.
C'est 1,50€.
Quelle que soit la manière dont on y arrive.
Pierre, vous incluez la double taxe. Vous incluez la double taxe parce qu'il y a une TVA sur la TVA.
Ouais, alors,
sur la TIPP, oui.
Voilà, il y a une TVA sur la TICPE. C'est-à-dire que là, on a un principe français qui est complètement débile. Voilà, c'est double... que vous payez l'impôt sur l'impôt. C'est complètement con.
Ouais. Merci beaucoup Pierre Chasseret d'avoir été avec nous. Pierre Chasseret, directeur de l'association 40 millions, président de l'association 40 millions d'automobilistes. Pierre, c'est quoi pour ceux qui veulent signer la pétition, je pense qu'ils vont être assez nombreux, il est plus là. Bon, c'est à 1,50€. On va regarder l'adresse exacte du site pour ceux qui voudraient signer cette pétition. On va retourner au 32-16. On vous pose la question. Carburant, doit-on plafonner les prix à 1,50€? Vous nous appelez donc au 32-16. On va rejoindre Félise. Bonjour Félise.
Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde.
Bonjour Félise. Très joli prénom. Bonjour. C'est d'espagnol Félise.
Ça veut dire heureux, oui.
Heureux, mais c'est bien ça. Félise Navidad. Félise heureux.
Heureux, magnifique.
Je me prénomme heureux.
Oh, Félise, c'est beau quand même.
Bon, sauf que vous êtes automobiliste, Félise?
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Et vous restez malgré tout heureux ou pas?
Oui, mais je roule plus pour le loisir que pour mon travail. Hein.
Voilà un homme heureux. Vous nous appelez d'où, Félise?
De Haute-Savoie.
Très jolie région.
De la vallée de l'Arve.
Oh là là. Formidable.
Il y a du boulot, mais il y a beaucoup d'usines.
Faites quoi dans la vie?
Responsable de production.
D'accord. Vous roulez combien à peu près par mois ou par an?
Par an, 10 à 11 000 kilomètres à peu près.
Oh, c'est encore raisonnable. Est-ce qu'on doit passer 1,50€?
Non, faut pas. Il y a d'autres solutions. Non, faut pas. Moi, je suis pas pour le plafonnement. Non, il faut que l'État puisse avoir aussi de quoi faire. Bien sûr, il faut absolument qu'il sache s'en servir de l'argent. C'est surtout ça. Et de ne pas donner des subventions, parce qu'il y a quand même environ, si je me trompe pas, 80 milliards de subventions qui sont allouées à droite et à gauche. Il faut qu'ils sachent gérer plutôt. C'est plutôt ça. Mais il faut qu'ils aient de l'argent. Et puis il y a d'autres, je dirais, c'est un grand débat. Hein. Le gros problème, c'est que il faudrait qu'il y ait plutôt de l'argent pour que les gens puissent gagner plus et laisser le carburant tel qu'il est. Voilà.
Ouais, ce que dit Félix, d'accord, parce que c'est vrai que les cotisations sont tellement énormes sur les salaires, entre la différence entre le brut et le net, c'est vrai que ça serait une augmentation du pouvoir d'achat. Si il doit y avoir un manque à gagner pour l'État, pourquoi ne serait-il pas sur les cotisations prises sur les salaires et d'avoir un salaire net plus élevé qui permettrait aux gens de mieux plus payer.
Oui.
C'est ça aussi. Non, mais c'est.
Mais ça c'est la vieille solution qui n'en est pas une. Ça consiste à assécher le budget de la sécurité sociale. Les cotisations elles abondent la sécurité sociale. Le salaire, c'est bien le salaire brut. Et vous avez le salaire net qui vous permet de faire face à vos dépenses courante et le salaire brut qui, à travers les cotisations, alimente votre salaire socialisé.
Le problème, c'est qu'il y a plus grand-chose à la fin, Benjamin. Tu le sais. Les gens font la tête quand ils regardent leur salaire net.
Oui, mais il faut leur expliquer à quoi ça sert, ces cotisations.
Vous êtes un peu mieux géré.
Il faut leur expliquer ce que ça coûte, par exemple, quand on accouche dans un système privé. La somme que ça représente.
Bien entendu.
Donc, les cotisations, c'est précieux.
Pour sauvegarder la sécurité sociale, bien entendu.
Là, on parle des.
J'ai essayé d'expliquer de faire baisser les taxes quelque part pour qu'on.
Les taxes et les cotisations, l'impôt et les cotisations, ça sert à beaucoup de choses.
Merci à Félix d'avoir été avec nous. Félix qui nous appelait depuis la Haute-Savoie. Vous êtes nombreux toujours à réagir sur Direct Studio, notamment sur nos réseaux sociaux, Alfred.
Oui, très, très nombreux, notamment Patrick qui dit: vous rêvez l'essence à 1,50€ alors que l'État est en faillite. On ose tout. Eh bien, Alexandre aussi, éternel insatisfait. 1€, c'est bien. 1,50€, ça reste du vol. Les gens ont la mémoire courte.
Ouais. C'est vrai que Robert le rappelait tout à l'heure. On était au moment de l'éclatement du mouvement des Gilets jaunes.
L'apparition de 1,50€.
C'était 1,50€.
C'est fou.
Patrick nous rejoint au 32-16. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi. Vous nous appelez depuis la région de Pau ou Pau même?
Oui. Ouais, pour même, voilà, tout à fait, dans les Pyrénées-Atlantiques.
Vous faites quoi dans la vie, Patrick?
Alors, moi, je suis chef de cuisine, voilà.
D'accord.
Donc, moi, je voulais prendre la parole tout simplement parce que, bon, on est dans les Pyrénées-Atlantiques, on est pas loin du Pays Basque et de l'Espagne. Et une fois par mois, ben, nous, on va faire nos courses, nos achats, que ce soit aussi bien alimentaire que pour l'essence. On passe la frontière. Et très honnêtement, ben, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en France, on est des dindons, quoi. On nous prend pour les imbéciles.
Vous êtes à combien? Vous avez quoi comme type de véhicule? Diesel ou essence?
Alors, moi, j'ai deux véhicules. Hein. J'ai une Lexus hybride et puis j'ai un Nissan qui est au gasoil.
Et donc, il est à combien le gasoil en ce moment en Espagne?
Alors, je vous explique. Nous, on va chez El Campo, c'est au champ, hein, pour pas leur faire de la pub, mais bon, peu importe.
C'est drôle.
Et donc, on y va parce que bon, ben, oui. les courses sont quand même très intéressantes. Et donc, dès que vous avez fait vos achats, eh ben, ils vous donnent un ticket en fin d'achat où ils font bénéficier encore de 5€ de remise sur le carburant. C'est-à-dire que quand le litre de gasoil, il est à 1,48, eh ben, vous passez à la pompe, vous le payez 1,43. Voilà, tout simplement. Mmh. Là, j'y suis allé la semaine dernière, il était à 1,43. Donc, lorsque vous faites 1,43€, bien sûr. Hein. Donc, là-dessus, vous faites le plein, vous faites le calcul, et ben, vous avez une marge très intéressante. Quoi. Moi, j'ai fait pour 50€, et ben, j'ai, par rapport à la France, ça m'a fait un gain de 16€. Quoi. Voilà.
Toi qui connais bien l'Espagne, pour y avoir vécu 30 ans, il travaille 30 ans, yeah. Frédéric Hermel. Après, moi, je connais pas le modèle social.
Oui, mais c'est pas pareil.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Oui.
Je ne sais pas quel est le montant, je suis en train de regarder là. Je ne sais pas quel est le montant des taxes sur le carburant en Espagne, mais c'est différent.
C'est différent, puis surtout, le niveau de vie et les salaires sont moins importants en Espagne.
Que nous, hein, le baril, il paye au même prix. Hein.
Oui, non, mais d'accord. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en France, pourquoi on paye aussi cher?
Oui, oui.
C'est parce qu'il y a 60% de taxes sur notre carburant, quel que soit le prix du baril, il y a 60% de taxes. Et que bah, l'État s'en sert notamment pour financer le modèle social.
En Espagne, les taxations sont moindres, 56% pour le prix de l'essence et 52% pour le prix du diesel. Donc,
et le modèle social n'est pas
pareil, c'est pas financé de la même manière. Et surtout, le niveau de vie est moins élevé. La moyenne des salaires est beaucoup moins élevée. Donc, il est normal que les prix soient moins élevés aussi en Espagne. Donc, mais moi, je sais quand j'étais jeune, tout jeune journaliste, j'habitais à Lille.
Tu l'as encore.
Oui, enfin, ouais. Mais moi, j'allais faire le plein en Belgique.
Ouais, bah oui,
parce que les taxes étaient moindres en Belgique, donc
le monde n'est pas frontalier non plus. Attention.
On peut pas comparer.
En Belgique, les salaires sont indexés sur l'inflation.
Mais oui, donc c'est pas pareil.
Moi, j'ai un ami qui travaille en Belgique.
Échelle mobile des salaires.
Ouais, mais qui me dit bon, il y a avantage et inconvénient aussi parce que les entreprises parfois ça.
Bien sûr.
C'est très compliqué pour elles. Merci beaucoup. Patrick, d'avoir été avec nous au 32-16. On est pris par le temps. Il y a Alexandre, mais alors très rapidement, Alexandre, au 32-16 qui nous rejoint. Alexandre.
Oui, bonjour à tous, merci de me prendre.
Merci, vous nous appelez d'où, rapidement?
J'ai une question à vous, donc j'ai déjà la réponse. Ouais. Est-ce qu'on peut faire tourner l'économie en France ou pas? Si l'argent qu'on ne dépense pas dans le gasoil, s'il était moins cher, à 1€ par exemple, on pourrait le dépenser dans autre chose, ce qui rapporterait aussi de la TVA. On pourrait être
dans la consommation, générale.
On pourrait faire des loisirs.
Ouais.
Donc en fait, 1,50€, ça reste du vol. C'est toujours mieux qu'1,80€, mais ça reste du vol. C'est que des taxes, c'est de l'argent qu'on donne à l'État. Pourquoi On ne sait pas. Donc, quand vous avez lu mon SMS, vous avez dit éternel insatisfait, mais ça m'a fait beaucoup rire. Mais ouais, grave. Enfin, mais il n'y a que des raisons d'être insatisfait.
Merci Alexandre. Précis, concis. Je suis désolé, on est pris par le temps, mais au moins vous avez pu donner votre avis. Merci Alexandre qui nous appelait depuis Vienne, la ville de Vienne. On vous a posé la question, carburant, doit-on plafonner les prix à 1,50 €? Réponse.
Vous répondez oui à 84%, non à 16%.
Allez, dans un instant, dans Estelle Midi, sur RMC, RMC Story. Bah, c'est le meilleur du jour sur RMC, c'est notre zapping. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Tout de suite, c'est le meilleur du jour sur RMC.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Le zapping, la police française est-elle d'extrême droite? Question posée ce matin dans les GG. Après le ralliement de l'ancien patron de l'agence Frontex, le Rassemblement National, accueille l'ancien policier et syndicaliste Mathieu Vallée. Ce dernier a déclaré être honoré, fier de rejoindre ce grand mouvement et souhaite remettre la France en ordre. Voilà ce qu'il dit. Il était l'invité exceptionnel d'RMC ce matin.
Pendant 20 ans de police, vous savez, j'ai été projeté sur les terrasses du 13 novembre 2015 lorsqu'il y a eu les attentats sur le petit Cambodge et le Carillon dans le 10e arrondissement. J'ai été projeté dans les émeutes des violences urbaines dans l'été 2003, mais aussi en 2007 à Villiers-le-Bel. Donc, en réalité, j'ai acquis une expérience grâce à mes pairs, grâce à mes collègues sur le terrain en tant que policier que je ne vais jamais renier, dont on n'en enlèvera jamais la fierté. J'ai été fier d'être policier et aujourd'hui, le combat, je le porte avant tout et pour tout pour les policiers et les gendarmes dont le Rassemblement National est le premier parti qui les défend et qui va améliorer leur condition de travail et remettre la France en ordre.
C'est le Rassemblement National, le premier parti qui les défend. Est-ce que ça veut dire que le Rassemblement National, c'est le parti de la police?
C'est fou de dire ça.
Non, mais le Rassemblement National.
C'est fou de dire ça, quoi.
Non, mais c'est pas fou, je peux quand même développer les propositions. Parce qu'au Rassemblement National, d'abord, on ne critique pas la police parce qu'on ne la déteste pas. On est là pour l'améliorer.
Benjamin Hamar, le Rassemblement National, c'est le parti de la police?
En aucun cas. Et justement, je moi aussi j'ai été heurté par cette déclaration. Mathieu Vallée fait un choix politique, c'est le sien. Moi, ça ne m'étonne pas pour le voir et même avoir débattu avec lui ici même sur ce plateau. Ses positions à moi me semblaient d'extrême droite depuis longtemps. Qu'il fasse ce choix, ça ne m'étonne en aucun cas, mais on peut pas le laisser dire que ce choix-là serait celui d'énormément de policiers, de l'ultra-majorité des policiers. Il fait un choix, c'est le sien. Je pense que les policiers vivent une réalité professionnelle extrêmement difficile qui nécessite effectivement un engagement de l'État. Et en aucun cas, on peut dire, ah ben, effectivement, seul le Rassemblement National répond aux exigences des policiers. C'est le message du Rassemblement National.
C'est pas un jugement. En aucun cas, un jugement. Je ne dis pas puisque c'est la question que le RN est le parti de la police ou que ce serait le parti vraiment vous, mais moi j'ai une enquête du CEVIPOF,
ouais,
le centre d'études de sciences politiques,
ouais,
de Sciences Po, qui nous dit qu'en 2022, juste avant le premier tour, 60% des policiers déclaraient avoir l'intention de voter Marine Le Pen.
Mais alors d'abord je l'ai lu ce truc, d'abord une chose, c'est une intention.
Oui. Non, mais encore une fois, je dis pas. C'est pas une conclusion. Non, je dis.
C'est une intention. Et encore une fois, quand bien même, ça voudrait dire que si on admet l'idée qu'il y a quand même une dégradation par rapport au vote effectif, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de policiers non négligeables qui ont voté pour le Rassemblement National. Mais ça ne veut pas dire que c'est tous les policiers. Mmh. Et je rappelle, il y a d'autres proportions quand même pour garder le CEVIPOF. Il y a d'autres catégories qui avaient cette intention-là ou même qui avaient déclaré plus tard avoir voté. Les sympathisants des syndicats, ça remontait à, je crois, autour de 25 à 26%. Donc le taux était très élevé. Voilà. Donc en l'occurrence, le problème qu'on a, moi je considère que c'est un problème démocratique, il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par le vote du Rassemblement National. Pour moi, les élections législatives de 2022 qui ont permis à 90 députés d'y accéder montrent un problème démocratique de fond, mais on ne peut pas dire à l'emporte-pièce, oui, le Rassemblement National et le Parti des policiers.
Je crois, Rémi, qu'il ne faut pas catégoriser.
Robert Sebag.
Les policiers sont d'extrême droite, les enseignants sont de gauche, les magistrats sont de gauche, du centre. Il faut faire très très attention à ça parce que ça va augmenter les fractures de notre société. Donc, il y a des gens d'extrême droite dans la police, il y a des gens d'extrême droite chez des enseignants, il y a des gens de gauche dans la police.
Une vue
d'esprit. Non, mais si on prend.
C'est une vue de l'esprit quand on parlait de. Peut-être que c'est une vue de l'esprit, j'en sais rien, mais quand on parlait du peuple de gauche à propos des des enseignants.
Non, mais ça, c'est une, alors ça, oui, je peux te le dire, pareil, c'est une pure, ça, en l'occurrence, c'est une large caricature. Il y a des gens, il y a une proportion large des enseignants qui votent à gauche. Moi, j'ai eu des collègues très à droite. J'ai eu des collègues qui étaient macronistes, qui ont été déçus depuis. Mais enfin, il faut faire des analyses un peu subtiles. Ouais. Qu'il y ait une proportion plus importante de policiers qui votent à l'extrême droite, oui, mais c'est pas ce que dit Mathieu Vallée, là. Mm.
Alors,
Frédéric Herbel.
Le Rassemblement National est le premier parti de France. Vous regardez les sondages, et de toute façon, c'est évident que le Rassemblement National va gagner les élections, les prochaines élections européennes. L'avance, elle est de, le dernier sondage, c'est 31,5%.
Contre 19% pour le parti présidentiel.
Voilà, vous imaginez, quoi. C'est colossal. C'est colossal. Donc, le Rassemblement National étant le premier parti de France, c'est aussi le premier parti des ouvriers en France. Il est sûrement aussi le premier parti de plein de gens, notamment de ceux qui, au quotidien, sont les premiers témoins de l'insécurité dans ce pays.
Il y a une sociologie du vote.
Voilà. Donc,
non mais Frédéric, il y a une sociologie du vote.
C'est exactement ce que je dis.
Non mais je pense pas que le RN soit le premier parti chez les enseignants, par exemple.
Non, non. Mais qu'il soit le premier parti chez
les enseignants.
S'il te plaît, Benjamin, je peux terminer. J'ai pas parlé là. Mais c'est le premier. Le RN est-il le premier parti des ouvriers et des petits employés en France? Oui, ça, c'est un vote sociologique. Il pourrait être, donc le RN pourrait très bien être le premier parti des policiers. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Le Rassemblement National est un parti démocratique. Il y a certaines sociologies de vote, etc. Donc moi, je ne suis pas choqué par ça.
Mais je comprends ce que vous voulez dire aussi, Benjamin, quand tu dis que c'est ce que déclare Mathieu Vallée, comme quoi le RN représente le mieux les policiers et les défend le mieux.
Bah, oui, Benjamin, il est maintenant dans ce parti. C'est normal qu'il pense.
Oui, mais ce qu'il dit est factuellement faux. Voilà.
Apolline Matin, faut-il s'inquiéter d'une désobéissance civile massive? La mouvance citoyen souverain, tout droit venu des États-Unis, s'installe tout doucement en France. Un couple en faisant partie a récemment refusé d'obtempérer un contrôle routier en se justifiant qu'ils ne contractaient pas, ils n'avaient pas signé de contrat avec l'État, qu'ils étaient souverains, qu'ils n'appartenaient pas à l'État français. Bref, les explications complètes avec Nicolas Poincaré.
Ça signifie quoi en vrai cette phrase « on ne contracte pas » ?
Alors ça signifie que ce couple appartient au mouvement des citoyens souverains. Ah. Ils prétendent que l'État français n'existe pas, que ce n'est qu'une entreprise privée qui a été créée en 1947, sous-entendu une entreprise fondée au lendemain de la guerre par les Américains et par les Juifs. Les citoyens souverains n'ayant pas signé de contrat avec cette entreprise, qu'ils appellent entre eux la République française présidence, eh bien ils ne se sentent concernés par aucune loi. Ils peuvent brûler leur passeport ou leur permis de conduire, ils ne payent pas d'impôts et on l'a vu dans la vidéo, ils refusent par exemple de souffler dans le ballon. Ils considèrent que la Constitution est caduque depuis 2016, ce qui invalide l'élection d'Emmanuel Macron. Les plus convaincus retirent même généralement leurs enfants de l'école.
Ce type de personnage, j'allais dire, il n'est pas anodin aux États-Unis.
Non.
L'élection de Donald Trump, là où il en est aujourd'hui, toujours favori chez les conservateurs, n'y est pas étrangère. Est-ce qu'il faut craindre, Frédéric Hermel, que ça arrive chez nous?
Ah bah, de toute façon, en général, ce qui vient des États-Unis, c'est jamais très bon. Donc ça beaucoup d'habitude. Ouais. Après, c'est un épiphénomène. Hein. J'ai vu la vidéo plusieurs fois.
Ouais, mais etc. Pas aux États-Unis, tu vois.
Pas aux États-Unis. Mais en France, je pense qu'il y a quand même une culture générale en France, un minimum de formation qui fait que les gens sont un peu moins complotistes qu'ailleurs. Mmh. Voilà, parce qu'on est quand même un peuple plutôt éduqué.
On les a bien vus quand même pendant
ils font beaucoup de bruit par rapport à ce qu'ils représentent. Mmh. L'immense majorité pensée ne sont pas des idiots qui croient sur le truc. Puis soit contracté, si quand tu nais en France, tu as nationalité française, tu contractes, comme tu dis, tu es français. À partir du moment où tu es français, tu as les droits et les devoirs d'un citoyen français. Mmh. À partir du moment où tu résides sur le sol de France.
Bah là, je pense qu'on n'en est même pas à essayer de les convaincre. Là.
Mais c'est pas la peine. Mais je veux dire, mais pourtant, c'est une réalité. Mmh. Ils le disent, qu'ils le veuillent ou non, ils sont français. Dans ce cas-là, qu'ils deviennent apatrides et surtout qu'ils se cassent, mais qu'ils aillent où ils veulent, qu'ils arrêtent de nous emmerder. Quoi.
Robert Sebag.
Je crois qu'il ne faut pas jamais prendre ce genre de choses à la légère. Ouais. Parce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui les gens. Renoncent à la politique parce qu'ils sont écœurés par les politiques. Et ça peut attirer ce genre de personnes en disant, en fin de compte, cette constitution, ça sert à rien. On a créé cet État. Et puis moi, j'ai pas besoin. Ils me donnent des leçons. Moi, je veux pas payer mes amendes alors que certains s'enrichissent, etc. Attention, c'est extrêmement minoritaire. Ce qui arrive des États-Unis souvent, on l'a vu sur le wokisme. Oui. Au début, on se marrait il y a quelques années. On s'aperçoit que ça prend quand même des proportions. On parlera peut-être des trans et tout ça un peu plus tard. Donc je prends pas à la légère. Regardez ça, mais c'est aussi symptomatique de phénomènes de société qui se passent aujourd'hui.
Ils veulent pas des impôts, mais le jour où ils seront malades, ils iront voir le docteur Sebag, hein, t'inquiète pas.
Bien sûr, c'est des libertariens complotistes, visiblement, mais moi j'insiste sur un point quand même. la petite mention antisémite, c'est-à-dire que l'État français et la création des Juifs. Moi, je suis inquiet d'une résurgence de l'antisémitisme par toutes les ports. Et vu qu'on vient de parler tout à l'heure du Rassemblement national, je rappelle que on nous a expliqué partout que le Rassemblement national n'avait plus rien à voir avec l'antisémitisme. Par contre, les députés du Rassemblement national nous expliquaient tous, Jordan Bardella en premier, que Jean-Marie Le Pen n'avait jamais été antisémite. Donc moi, cette résurgence de l'antisémitisme, elle me pue à la gueule, je le dis clairement, et y compris la dédiabolisation du Rassemblement national par ce biais.
Les GG, peut-on être carnivore et aimer les animaux? Avec le réchauffement climatique, le végétarisme ou encore le véganisme font de plus en plus d'adeptes dans le monde, mais certains défendent un carnivorisme, alors là, des queudoïsmes, raisonnable et raisonné, à l'image du philosophe et auteur du livre Prostec. Il s'appelle Jean-Claude Poisat. Ils sont expliqués ce matin sur RMC dans les GG.
J'ai écrit ce livre un petit peu en réaction contre un discours qu'on entend beaucoup dans les médias, qui se développe de plus en plus, qui effectivement aujourd'hui revient à condamner la consommation de viande, ce que j'appelle un front anti-viande, qui prend de l'ampleur. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut aimer et défendre les animaux tout en consommant de la viande.
Ça, c'est mon point de vue,
ce que je défends. Et les animalistes voudraient criminaliser les mangeurs de viande en disant que ce sont des ennemis des animaux. Et ça, c'est ça que je récuse complètement. Je dis qu'on peut... Je dirais même plus, les animalistes veulent interdire la relation entre l'homme et l'animal. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire donc l'élevage, la domestication, même l'équitation aujourd'hui est mise en cause.
Robert Sebag, est-ce qu'il faut défendre son steak?
Je crois qu'il a répondu à un livre qui s'appelait No Steak, et donc lui il a fait Prostec. Alors effectivement, il y a le problème des animalistes et tout. Alors il y a les déclarations de l'OMS sur la consommation de viande. Je pense qu'il faut savoir raison garder. La souffrance animale, ça existe. On peut améliorer la manière, mais je veux dire, on ne pas supprimer complètement la viande. Les protéines sont importantes. On sait qu'il y a des manques de protéines chez certains véganes. On en voit aussi à l'hôpital. Donc je pense qu'il faut défendre aussi. Les bouchers, ça existe. Les agriculteurs qui élèvent effectivement d'une manière le plus adéquate et le plus humain possible. Je crois qu'il faut maintenir ça. C'est une tradition française. Et attention, si vous voulez, à ces animalistes, si vous voulez, qui mettent l'animal au-dessus de tout. Moi, je mets l'homme avant l'animal.
Fred Hermel, je te demande même pas parce que je connais déjà la réponse. Mais ceux qui écoutent Estelle Midi connaissent la réponse. Tu es prostec.
Non, oui, c'est-à-dire que j'ai toujours dans mon entourage un bon boucher, donc je salue Sébastien.
Mais est-ce que tu te sens menacé comme un peu ce qu'on vient d'entendre par les animalistes?
Oui, bien sûr, parce que ces gens-là vont contre la nature. C'est-à-dire que pourquoi je mange de la viande, moi? Parce que je suis un être humain, parce que je suis un animal qui mange de la viande. Je suis omnivore. C'est-à-dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, si j'étais herbivore, je mangerais de l'herbe. Mais il se trouve que je suis omnivore parce que la nature m'a fait comme ça. Enfin, moi, je crois en Dieu, donc c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Mais sinon, si on parle de la nature, la nature m'a fait comme ça. Depuis que l'homme est homme, même quand il était animal, avant l'évolution, il mangeait de la viande. Donc, notre corps a besoin de ces protéines-là. Donc, je veux dire, c'est surtout pas dogmatique de ma part. Je respecte ma condition d'animal humain qui fait partie d'une nature qui me demande de manger des protéines animales. Donc voilà, le docteur est d'accord avec moi. Cette attirance-là, c'est pas que pour le goût. C'est-à-dire que moi, je dis toujours que j'ai besoin de mes 500 grammes de viande rouge par semaine parce que mon corps le réclame.
C'est bien ou c'est beaucoup?
Par semaine, 500 grammes.
Bon.
C'est deux steaks.
Non, effectivement. Il faut faire attention. Il y a des recommandations de l'OMS. On est autour de 400 grammes par semaine.
100 grammes près.
Il y a un peu plus. Non, mais attends, il n'y a pas que la viande rouge. Il y a aussi la viande blanche, il y a le poulet, il y a des protéines aussi dans les œufs, il y a des protéines dans le poisson.
Des œufs.
Il faut, voilà. Non, je veux dire, il faut faire attention à ça.
Les animalistes sont contre aussi la pêche.
Benjamin.
Alors bon, moi je suis bien évidemment pour une utilisation plus raisonnée que par le passé où on mangeait beaucoup plus de viande, enfin du moins c'était beaucoup plus mis en avant socialement. Je suis aussi pour que la souffrance animale soit plus largement pris en compte, mais je me place pas sur un terrain forcément biologique, mais je suis pour que socialement les gens puissent consommer, avoir une alimentation diversifiée, végane s'ils le souhaitent et carné s'ils le souhaitent, sans culpabilisation qui est somme toute assez détestable.
Allez, RMC Sport, on termine avec ça. Le PSG a-t-il une nouvelle fois raté sa chance en Ligue des Champions malgré un très beau match hier soir au Parc des Princes? Les joueurs de la capitale ont fini sur une défaite 3-2, c'est le FC Barcelone qui l'a emporté. Et les supporters rencontrés par RMC ne sont pas vraiment confiants, les supporters parisiens, pour le match retour.
Franchement, on sait pas ce qu'on a fait ce soir. Je comprends pas. Ce qu'on a vu globalement sur la partie, c'est pas du tout rassurant. Je suis assez pessimiste sur ce que j'ai vu.
Ouais, encore une fois, je dis, il y a qu'un but. Il suffit entre guillemets que de gagner 2-0 là-bas et c'est bon.
Bah, bien sûr que c'est possible, on n'a pas le choix de gagner. On espère que là-bas, ils auront un peu plus d'envie, qu'ils auront envie de nous satisfaire, parce que là, on est totalement déçus.
Frédéric Hermel, bon, spécialiste du foot, journaliste.
RMC Sport aussi.
Très méritant. Sport. Et on a un supporter du PSG avec, avec Robert Sebag. Donc, je m'adresse d'abord aller aux supporters du PSG. Robert,
moi, j'en ai marre.
Tu y crois encore ou pas?
Je vais essayer d'y croire, mais ça fait 10 ans. Tous les ans, on est triste parce qu'une fois, c'est le quart de finale. Une fois, c'est le 8e du final. On n'en peut plus. On a dit peut-être que cette année, c'est l'année. Puis bam, badabaoum hier avec une sélection. Enfin bon, n'en parlons pas. Il y a quand même des responsabilités. Je vais essayer d'y croire, mais.
Fred.
Hier soir, je me disais, c'est quand même beaucoup plus sympathique d'être comme moi supporter du Racing Club de Lens que du Paris Saint-Germain parce que c'est vite que des déceptions du côté du PSG.
Oh,
mais alors moi, je crois que c'est possible au retour parce que le PSG a joué à 10 hier. Parce qu'un certain Kylian Mbappé était totalement transparent. Ouais, et quand on sait ce qu'il est capable de faire, il n'y a qu'un but à rattraper. Franchement, avec un grand Mbappé,
parce que c'est possible. Parce qu'ils ne vont pas marquer à Barcelone, tu dis qu'un but.
Oui, mais
on verra.
On en discute pendant la pub.
Voilà, et ce sera la semaine prochaine, et ce sera évidemment.
C'est mardi,
et sur à RMC vivre Sport. Sur RMC, évidemment. Allez, dans un instant, RMC s'engage avec vous, avec François. François, il a découvert qu'il devait 4000 euros à son assurance pour une moto vendue il y a 9 ans.
Oh bah.
Ça fait bizarre. C'est dans un instant, dans Estelle Midi, sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Tout de suite, on s'engage avec vous.
Estelle Midi,
RMC s'engage avec vous.
Et Guillemette Franquet est avec nous. Salut Guillemette.
Salut Rémi.
On va aider François, un fan de moto.
Alors on est encore loin du mois de décembre, vous en êtes peut-être rendu compte, ouais. Rémi. Et pourtant je vous promets, cette histoire est digne d'un conte de Noël.
Ah,
vraiment.
Magnifique.
En 2013, François s'achète une belle Suzuki rouge. Mmh. Une Hayabusa 1300 cm3, pour ceux à qui ça parle, je ne sais pas si ça vous parle. Bref, c'est une très très belle bécane. Sauf que 2 ans après, il commence à avoir des galères d'argent, donc il vend sa moto. Petit à petit, les problèmes s'accumulent et puis tout s'effondre.
J'ai eu une séparation difficile, j'ai perdu mon emploi, je suis retrouvé SDF. J'ai postulé pour des emplois d'intérim saisonnier. Et j'ai toujours travaillé, mais je dormais dans ma voiture. Personne ne pouvait me loger, j'avais pas assez d'argent pour me loger correctement.
À l'époque, François habite dans la Marne et il vit pendant 3 ans dans sa voiture avec des températures négatives l'hiver et la canicule l'été.
Bon, tu nous as promis, Guillemette, un conte de fées, donc j'imagine qu'il a réussi à remonter la pente.
Absolument. Depuis un an, il a retrouvé un logement, un travail à temps plein, il est devenu taxi et même une compagne. Sauf que si François a fait appel à nous, c'est parce qu'en fait, il s'est rendu compte que l'assurance pour sa moto était toujours prélevée près de 40 euros par mois depuis 2015, l'année de vente de sa voiture. Bon, s'il s'en rend compte que maintenant, c'est parce qu'il a perdu l'habitude de regarder ses comptes quand il était SDF, on le comprend bien.
Ouais.
Et la facture est salée, 4000 euros au total.
C'était réglé, quoi. Ben, s'il pouvait me les rétribuer, j'en serais très reconnaissant. Et c'est vrai, avec toutes les galères que j'ai passées, j'avais fait un emprunt aussi pour m'en sortir un petit peu. Donc, ces 4000 euros, à l'heure actuelle, ça, c'est pas négligeable pour moi.
Bah, on imagine bien que ça l'aiderait, ouais, à commencer par cette nouvelle vie. Est-ce qu'on a pu faire quelque chose pour lui?
Alors, notre reporter Margot Boult a contacté l'assureur Generali. Elle leur a expliqué qu'il devait y avoir une erreur puisque François avait vendu sa moto il y a 9 ans, sauf qu'il n'a gardé presque aucun justificatif pendant ces années de galère. Mmh. Et pour ne rien arranger, l'assurance non plus ne retrouve pas les documents qui prouvent le changement de propriétaire. Mais la NTS, elle les a bien. Ouf. Bon, la NTS, c'est l'administration qui gère les immatriculations de véhicules.
C'est la carte grise.
Exactement. Ouais, donc là, ils avaient tout l'historique. En tout cas, Generali a entendu l'appel de François. Oh. Avant même d'avoir eu la confirmation de la vente, l'assureur a reconnu que c'était un cas un peu particulier et à titre exceptionnel, Generali va bien lui rembourser les fameux 4000 euros.
Voilà une belle histoire.
Ça finit bien.
On les aime, même si on est en plein mois d'avril. Mais c'est une très belle histoire. Ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé avec Charlotte Mériton dans RMC Conso. Elle sera avec nous tout à l'heure, Charlotte Mériton. Toujours regarder parce qu'il y a plein de petites assurances parfois. Mais alors là, c'est du 40 euros, mais parfois du 2 euros, 3 euros pour des anciens portables, etc. Toujours vérifier. Parce que c'est vrai que parfois, tant que vous ne les contactez pas...
ça continue.
Moi, je ne suis pas convaincu que je ne continue pas à payer 2 ou 3 euros pour un portable d'une de mes filles que j'avais contracté. Il faut que je vérifie.
on peut dire du bien à l'administration, pour une fois. La NTS, ça marche très bien. Je viens de faire refaire mon permis, mais c'est
Ça a été rapide.
Ah ouais, c'est exceptionnel.
Merci beaucoup, Guillemette, d'avoir été avec nous. Tu allais en colo quand tu étais petite?
Alors, moi, j'allais au scout, figurez-vous. Je dormais sous la tente. Voilà, bon. Voilà, je faisais cuire au feu de bois.
Pourquoi je te pose cette question? Parce qu'on va parler des colos dans un instant. Le gouvernement lance un pass colo pour aider les familles à envoyer leurs enfants en colo l'été. Alors, c'est bien particulier, tu nous l'expliqueras, Alfred. Mais on vous pose la question, est-ce qu'il faut relancer les colonies de vacances? Vous nous appelez au 32-16, c'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. Un fameux 3 matin.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.